Eh bien, maintenant, on continue avec des concerts athées dans une ambiance nihiliste, post-punk allemand.
Ça commence fin des années 70, dans les apparts collectifs de la communauté gay de Berlin-Ouest, dans les squats du quartier de Kreuzberg, situé au plus près du mur. Ça commence sur une île américaine au milieu de l'océan soviétique. Ici, débarque une jeunesse fuyant le service militaire, rejoignant la communauté homo, ou encore désireuse d'exister dans un underground libérateur. Pourtant, Berlin-Ouest est loin d'être un idylle. L'impossibilité de sortir de ces murs ou le sentiment d'être au cœur de la prochaine apocalypse nucléaire ne permet pas d'envisager l'avenir. Alors pour sortir de la torpeur ambiante, cette jeunesse se jette à corps perdu dans un mélange de musique, de peinture, de théâtre, dans l'expression tout entière de ce qu'ils ne veulent pas être, apathiques, et de ce qu'ils sont, des dépossédés.
Your turn to run.
Nous voilà projetés dans Berlin-Ouest des années 70-80, où les stigmates de la Seconde Guerre mondiale se font sentir. Une partie de la jeunesse sans argent loue pour des sommes ridicules ou squatte dans les quartiers proches du mur. L'hiver est rude, la température peut descendre en dessous des moins 20 degrés, le chauffage n'existe pas dans ces maisons. Alors ils sortent, passent leur vie dans les bars et les salles de concert, notamment au SO36, où pour l'anecdote, une émeute éclate pour le concert du célèbre groupe Dead Kennedys. Puis, cette jeunesse décide de passer à l'acte. Des dizaines de groupes collectifs émergent sous l'influence du punk, du jazz progressif, du cinéma, Kraftwerk, ou encore la no-wave new-yorkaise. Ils jouent partout, en manif, dans les squats, les salles de concert, les usines désaffectées. Ils jouent pour s'amuser, ils jouent pour oublier. Ils produisent et diffusent eux-mêmes leurs disques ou cassettes enregistrés dans les caves de studios pourris. Ces groupes jouent autant de guitares et de batteries que de perceuses, de marteaux-piqueurs et de meuleuses. Ce désir d'expression naît aussi le désir d'expérimenter et de briser les structures. Ces groupes se nomment Toyn Stenscherben, Einstürzende Neubauten, Die Totlich, Doris, Die Haute ou encore Malaria.
Yeah.
Après une intense période de drogue, de concerts, de nuits blanches, de musique improvisée, de galères financières, d'une certaine forme d'anarchie ou de communisme, vers la seconde moitié des années 80, cette scène s'est assagie. Il est devenu plus technique, musicalement plus exigeante, s'est fait aspirer dans ce qu'elle essayait de fuir. La volonté de gagner de l'argent avec la création est devenue plus forte, parce que ce qui était prétendument impossible à un moment l'a été ensuite. Vivre sans argent n'a jamais été une condition désirée, et petit à petit, l'attrait de cette scène pour les grosses majors à des fins commerciales émousse l'esprit de revanche de ces groupes jusqu'à la chute du mur. La musique ouest-berlinoise cessa d'exister le 9 novembre 1989, laissant place au futur d'un Berlin réunifié, la techno.
Un film est sorti en 2002, il se nomme Ken Park. Il a été réalisé par Larry Clark et écrit par Harmony Korine. On écoute tout de suite un extrait, ensuite on en parle et on écoute d'autres extraits.
À ton avis, t'es un gagnant ?
J'en sais rien.
T'en sais rien. Tu vois, Claude, parfois j'ai honte d'avoir un fils comme toi. Tu fais tout de travers. Même ton fut, il est de travers. Remonte-le. Tu peux même plus marcher avec ce truc-là. Pourquoi tu le portes comme ça, d'ailleurs ?
Je soulève pas de fonte, moi, je skate.
Tu veux être un petit con ?
Ouais, et alors ?
Je suis ton père. Mets ce pantalon comme il faut. Mm-mm. Quand je te regarde, j'ai des nausées. J'ai mal au bide et j'ai envie de gerber. Je me lève le matin, je te regarde et ma journée est gâchée. Tu me fais honte, compris ? Ta mère, elle dit que t'es qu'un petit pédé.
Voilà, on vient d'entendre le premier extrait qu'on vous passe de Ken Park. Du coup, film de Larry Clark, mais il n'est pas tout seul à le réaliser. Et j'ai plus du tout en tête le nom de l'autre réalisateur, mais soit. Du coup, c'est un film qui va dresser le portrait de une bande de jeunes. Et il y a quelque chose d'assez étrange qui traverse ce film, c'est que ça dresse le portrait d'une bande et en même temps, on les voit très très peu ensemble, sauf à la fin du film. Ce qui traverse un peu tout ça, c'est vraiment des situations individuelles quotidiennes. Du coup, là, on a entendu un des darons parler à son fils. Et en fait, il y a effectivement un cercle familial assez resserré qui pose plein de questions à chaque fois, qui est extrêmement étrange, extrêmement dérangeant, qui traverse le film. Mais pour moi, c'est que ça pose pas tant la question de la famille que du quotidien. En fait, c'est aussi parce qu'on suit des ados et qui sont encore chez leurs parents que la question de la famille se pose. Et du coup, à travers le quotidien, ça va être une question d'ambiance, de détails. Et ce point de vue sur les détails, il est extrêmement perçu à travers l'esthétique des images aussi. C'est-à-dire que tout en restant très souvent dans des cadres on voit les personnes jusqu'au buste, etc., va y avoir à plein de moments des toutes petites scènes qui vont s'axer sur un détail, telle chose, et un détail qui va pas juste traverser ce film, justement, mais faire complètement réagir les personnages de ce film. Voilà. Donc là, on vous passe un deuxième extrait.
Hey, donne-moi une cigarette.
Non, j'en ai plus qu'une.
Ton frère me dit de te dire que t'as qu'à aller te faire foutre.
Super.
Voilà, et du coup, bon, en fait, je dis que ça parle pas tant de la famille, mais c'est vrai que c'est dans cette ambiance-là qu'on se retrouve. Là, c'est un très court extrait d'une autre interaction entre un des autres personnages du film et sa mère. Et pour moi, ce qui s'en dégage, c'est le rapport au choc, le rapport à tout ce qui est choquant. Et du coup, pour moi, ça se dépasse. En fait, ça pose la question de savoir si c'est pas le fait d'inclure une certaine forme de violence au travers d'un regard hyper placide qui finit par choquer. En fait, c'est quand on dépasse le choc, la compassion, la surprise, le dégoût, que ça devient une froide réalité qui prend le pas sur toutes ces émotions. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elles prennent sens, qu'elles finissent par nous immerger en fait plutôt que nous toucher. Et ça, pour moi, ça marque aussi, je sais pas, le titre du film et la première scène du film qui est du coup le suicide d'un jeune qui s'appelle Ken Park. Et c'est extrêmement représentatif du dépassement qu'il peut y avoir parce qu'en fait, c'est l'absence de Ken Park pendant tout le long du film qui va marquer sa présence. Plutôt même que sa présence à lui, la présence de son geste, du coup, du fait de se tuer. Et ça, pas seulement dans le film, mais aussi, enfin, pas seulement dans le film pour nous, mais aussi en ses potes, en fait. À l'intérieur des gens dont on voit le portrait, c'est parce qu'il est éminemment absent jusqu'à la fin, et même quand ils finissent par se poser la question, qu'il finit par rayonner sur tout le film.
Sipi. C'est pas un mot, ça, c'est quoi, Sipi ?
Sipi, c'est une partie du corps.
Ah oui, et quelle partie du corps ? Quelle partie ? Tu peux dire où c'est ?
Dessous la hanche.
Je conteste. Ça n'existe pas.
C'est une partie du corps humain.
Ouais, on va voir ça.
Tu ne vas pas contester chacun de mes mots.
Moi, je crois que Sipi est un mot qui existe.
Eh ben, il n'est pas dedans. T'es un menteur. Parce que là, je vois Siphonophore et après Sirdar. Et y a pas de Sipi. Donc, t'es un menteur.
Je ne suis pas un menteur. Je l'ai vu écrit ce mot.
Ce n'est pas un menteur.
Ah oui? Alors pourquoi il n'est pas là-dedans?
Je n'en sais rien. Peut-être qu'il n'est plus employé. C'est un terme médical, qui est peut-être ancien.
Tu sais quoi, c'est une énorme connerie. Alors ton compte est réglé, tu es définitivement éliminé pour mensonge.
Oh, t'es...
Bon, allez, ça suffit, j'abandonne.
Tu peux pas dire ça, on n'abandonne pas quand on est éliminé. Où tu vas, bon sang, reviens. Oh, ne fous pas le camp et félicite-moi, au lieu de dire que des conneries. C'est moi qui ai le plus de points, c'est moi qui ai gagné la partie. Bon, alors voyons voir. 94 pour grand-mère, ensuite 110 pour tête, c'est ça. Et le vieux grand-père, lui, on l'élimine pour avoir joué les tricheurs. Et donc je suis le vainqueur.
Voilà, du coup, là, on vient d'entendre un extrait. Faut comprendre, du coup, ils sont en train de jouer au Scrabble. Du coup, c'est un des personnages avec ses deux grands-parents, et c'est un des personnages qui va énormément, enfin, qui va représenter la folie, qui est en fait complètement fou. Mais cette folie, je sais pas, la première fois qu'on l'aperçoit, elle peut paraître très appuyée sur le statut de l'adolescence. Et ce que moi j'ai envie d'y voir, c'est quelque chose d'autre, parce que je pense qu'il faut aussi péter le statut de l'adolescent en général. Mais c'est aussi une exigence extrême des détails. Et du coup, on en revient à cette ambiance de base du film de comment est-ce qu'il part de petits détails et en fait à quel moment il faut pas lâcher de ces détails pour réussir à avancer.
J'ai traversé le salon dans lequel mon grand-père triche aux jeux de société tous les samedis. Je suis entré sans faire de bruit dans la chambre de mes grands-parents. Ils dormaient. J'étais nu pour ne pas tacher de sang mes fringues. Je suis monté sur le lit de mes grands-parents et j'ai poignardé mon grand-père dans le cou. Sa peau était épaisse, comme du cuir. Il a essayé de bouger, comme un poulet. Ensuite, ma grand-mère s'est réveillée.
Je t'aime, Ted. Je t'aime.
Je l'ai frappé à la poitrine. Elle avait l'air surprise de voir son petit-fils là devant elle. Je crois qu'elle est morte très vite. J'ai cru l'entendre murmurer. Je t'aime, Tête. Elle a dit, je t'aime, Tête. Je t'aime, mon petit-fils chéri. Les voir comme ça, tous les deux, a provoqué chez moi une érection. Mais Guibol a aboyé et j'étais bandé. J'ai tué mon grand-père parce que c'était un tricheur qui me gonflait à raconter ses histoires de guerre. Et j'ai tué ma grand-mère parce que c'était une chieuse insupportable, une conne finie qui ne respectait pas mon intimité.
Voilà, du coup, dans cet extrait qui confirme la folie dont je parlais, c'est peut-être en fait son acte qui nous fait parler de folie. Pour moi, c'est assez représentatif de l'espèce de lien qui essaie d'être fait avec la réalité. C'est-à-dire que là, dans ce qu'il exprime, du coup, c'est une scène où ce qu'on entend là, c'est un enregistrement que lui-même fait dans le film. Et donc, c'est une manière de rapprocher un truc très méthodique, très froid, en fait, un truc hyper télévisuel sur comment est-ce qu'on agit en étant tueur, meurtrier, serial killer, etc. De raconter très méthodiquement ce qui se passe. Et pour moi, c'est extrêmement représentatif de comment est-ce qu'il essaie, ils essaient de se rattraper à une forme de réalité qui n'est toujours pas vraie, quoi. Et en fait, le moment où il retombe, où il explique, je sais pas, pourquoi il a tué ses grands-parents, etc., et que c'est des raisons complètement farfelues pour tuer quelqu'un, je trouve, ça pose vraiment quelque chose de... Il y a un fossé, en fait, entre la création de la réalité qu'il est en train de monter et ce qu'il traverse vraiment.
Nom de Dieu, jamais tu frappes avant d'entrer.
Tiens, Tite, je t'ai apporté des fruits. Tu as peut-être faim.
Non, mais... j'ai pas faim. Je voudrais juste bosser. Quand tu entres dans ma chambre sans frapper à la porte, c'est là que tu joues les vieilles emmerdeuses.
S'il te plaît, tu te prends ces fruits.
Mais je veux pas tes fruits, je veux que tu sortes de ma chambre.
Et attends, je t'ai découpé un kiwi.
Tiens, regarde. Bats-toi de ma chambre, dégueulasse.
Qu'est-ce que tu as, je
te fous le camp d'ici, grand-mère. Bon, allez, va-t'en.
Bonjour
chez toi, retourne dans ton lit. Tu sais ce que t'as à faire, hein. Ouais, c'est ça. Vieille salope. Putain de merde.
Du coup, à travers toujours cette relation entre Tate et ses deux grands-parents, il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve assez incroyable dans ce film, c'est qu'il ose interroger la bienséance qu'on peut avoir chacun d'entre nous. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir qui n'a pas été répugné par la bienveillance de ces deux vieux, que ce soit envers leur petit-fils, bon, qui répond très mal, du coup peut-être on est un peu plus, on exprime un peu plus de compassion, mais surtout entre deux. Et du coup, ça, pour moi, ça interroge tout le côté très sympa, très positive attitude, très pacifiste de ces deux personnes. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que même si l'esprit de contradiction du nihilisme complètement extrapolé, ça devient en fait la réponse logique, c'est-à-dire qu'il finit par les tuer, quoi. Et que c'est la seule réponse logique qu'il peut y avoir parce qu'il se doit de rentrer en confrontation avec ce côté joyeux, calme et positif.
Il y en a une au boulot, putain, je voudrais vraiment la apaiser. Cette greluche s'appelle Sam.
Sam ?
Ouais, Sam.
Sam ?
Ouais.
C'est plutôt un nom de mec ?
Non, je t'assure, c'est un nom de fille, mon pote. Et elle, je te dis que c'est un sacré beau morceau. Je l'ai vu se pencher une fois pour ramasser un crayon. Ces nichons débordés partout.
Ces nichons débordés.
Ouais, ça débordait.
Hop. Ça perd de l'image.
Ouais.
Voilà, du coup, c'était le dernier extrait qu'on va écouter, qui n'est pas extrêmement représentatif, mais c'est un moment où... En fait, je vais pas m'étendre sur les interrogations sur le genre, mais plutôt parler du cul pur qui traverse complètement tout ce film. Et du coup, là, c'est les deux darons qui discutent dans la voiture d'une nénette du boulot. Et du coup, c'est plus, en fait, à travers tout ce film-là, il y a vraiment... Enfin, il y a une dimension sexuelle. C'est même pas une dimension. En vrai, c'est un film où il y a énormément de scènes de sexe qui sont toutes plutôt dérangeantes, soit parce qu'elles relèvent de l'inceste ou d'une perversion qu'on est peu habitué à voir. Mais du coup, ce qui traverse le rapport au corps là-dedans, c'est un peu une sorte de consommation de l'orgasme, de consommation du bien-être ou de l'attention qui peut nous être donnée, en fait. Et pour moi, ça peut que dépasser la consommation même, parce que ça se pose de manière vraiment trop forte comme le schéma logique, le seul schéma logique qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas une issue, puisque celle-là, elle est tout aussi dénuée de sens. Du coup, il ne peut pas vraiment, à aucun moment, y avoir d'issue. Et puisque rien ne fait sens, alors le sexe et le corps deviennent dérangeants et deviennent presque souvent dégoûtants. Et du coup, ça pose un peu la question de que faire du sexe, je sais pas, sans l'émotion, plutôt sans le frisson. Et en fait, c'est atroce à regarder et en même temps, c'est très cru, très vrai. Et du coup, pour conclure, juste pour moi, il y a une dimension du nihilisme là-dedans qui cherche toujours à dépasser les questions. Mais qui, en cherchant à dépasser les questions, finit par dépasser les réponses aussi. Et du coup, qui est bon, en plus ici, à travers une grosse forme d'individualité, du coup vraiment de un peu, je sais pas, nietzschéenne, de on est toujours seul. Et du coup, pour moi, la question qui se pose, c'est l'énergie qu'on peut en tirer. Pour moi, elle est de l'ordre de ce dépassement. Mais ce qu'il faut aussi dépasser, c'est la sacralisation du dépassement lui-même.